Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la tension toujours au plus haut à Hong Kong. Des étudiants sont assiégés par la police dans un campus. Nous retrouvons notre correspondante sur place. Nous irons aussi aux États-Unis qui annoncent ne plus considérer les colonies israéliennes comme contraires au droit international. Et enfin en France, après l'effondrement d'un pont au nord de Toulouse, où en est-on aujourd'hui dans l'entretien et l'audit de construction pour la plupart vieillissante? Pour en parler avec nous, Hervé Maurey, sénateur et président de la mission d'information sur la sécurité des ponts et l'invité de ce journal. L'Union européenne condamne les violences à Hong Kong et appelle les forces de l'ordre à une réaction strictement proportionnée. C'est une déclaration de la chef de la diplomatie, Federica Mogherini, au nom des 28 États membres, en réaction à la situation toujours plus critique actuellement dans l'ex-colonie britannique. Des centaines de manifestants sont assiégés par la police dans le campus de l'Université Polytechnique. Le point sur la situation avec Dominique André sur place.
Des dizaines de protestataires ont profité de la nuit pour s'enfuir du campus de Polytechnique assiégé. Ils sont descendus en rappel depuis une passerelle, puis ont été récupérés sur une route en contrebas par des motards. Il est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur du campus où des centaines de jeunes manifestants sont retranchés. Ce soir, le président de l'université de Polytechnique, le professeur Tang, a fait une déclaration pour demander aux étudiants de cesser l'occupation du campus.
Nous avons maintenant reçu l'assurance de la police d'une suspension temporaire de l'usage de la force. Nous avons reçu la permission pour vous de quitter le campus en toute sécurité et je vous accompagnerai personnellement à la station de police pour être sûr que vos cas seront examinés équitablement.
Dans les rues autour du campus, y compris sur la grande avenue commerçante de Nathan Road, une chaîne humaine s'est organisée aujourd'hui.
Je suis une ancienne étudiante de Polytechnique. Cette situation est incroyable. Je ne peux pas dire qu'il y ait une raison qui puisse justifier l'action de la police contre les jeunes et la situation dans laquelle le campus est plongé.
Que va-t-il se passer la nuit prochaine? Y aura-t-il une nouvelle tentative d'assaut de la police contre le campus? Si la situation devient incontrôlable, le gouvernement central ne restera certainement pas sans rien faire, a déclaré l'ambassadeur de Chine à Londres.
Dominique André. Les États-Unis ne considèrent plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme contraires au droit international. Une déclaration du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui résonne comme une officialisation de ce qui, dans les faits, existait déjà. Les précisions de Louis Glory à New York.
Oui, absolument, un revirement effectivement en bonne partie symbolique, hein, puisqu'Israël ne s'embarrassait pas franchement de l'avis américain ou de celui de la communauté internationale, mais un symbole très fort et un cadeau surtout fait par l'administration, un cadeau de plus à son allié israélien. Il y avait eu bien sûr le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, plus récemment la reconnaissance, toujours par Washington, de la souveraineté israélienne sur le Golan. Et aujourd'hui, Donald Trump et son administration enfoncent le clou en quelque sorte avec cette décision. L'établissement de colonies en Cisjordanie, disait Mike Pompeo, n'est pas en soi contraire au droit international. Le secrétaire d'État américain qui a assuré avoir examiné soigneusement tous les arguments de ce débat juridique, manière d'évacuer de futures discussions. Les États-Unis, pourtant, assuraient il y a quelques mois encore travailler sur un plan de paix pour le Proche-Orient. Donald Trump s'était même vanté à plusieurs reprises de préparer le deal du siècle. Ce plan, visiblement, a été définitivement enterré.
Louis Glory en direct de New York, merci. Et sans surprise, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou salue la position de Washington, tandis que l'autorité palestinienne la dénonce. Et par ailleurs, sur le dossier Iran, les États-Unis ont annoncé dans la foulée la fin d'une dérogation qui permettait à l'usine nucléaire de Fordo de fonctionner malgré les sanctions américaines. Début novembre, l'Iran avait relancé ses activités d'enrichissement d'uranium dans cette usine souterraine, un pas supplémentaire dans son désengagement de l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait des Américains. Airbnb devient l'un des principaux sponsors du Comité international olympique jusqu'en 2028. Un partenariat qui couvrira donc 5 éditions des Jeux olympiques, dont celle de Paris en 2024. Paris qui a accueilli très fraîchement cette annonce et pour cause, plusieurs contentieux opposent la ville à l'entreprise de location de logements entre particuliers. Deux morts, c'est le bilan de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn. C'est en Haute-Garonne, au nord de Toulouse. Il s'agissait d'un pont suspendu. Un camion et une voiture sont tombés dans le Tarn. Il y avait une mère et sa fille dans la voiture. La mère a pu être secourue, mais sa fille de 15 ans est décédée. Le corps du chauffeur du camion a été retrouvé en début de soirée. Il aurait conduit un véhicule largement plus lourd que la limite de 19 tonnes. Alors plus d'un an après l'accident du pont de Gênes en Italie et presque 6 mois après un rapport sur l'état des ponts en France, où en est-on? Pour en parler avec nous ce soir, le sénateur de l'Eure, Hervé Maurey. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes donc sénateur centriste de l'Eure, président de la commission aménagement du territoire et développement durable et surtout président de la mission d'information sur la sécurité des ponts. En juillet, cette mission avait rendu un rapport sur l'état des ponts en France, selon lequel 25 000 d'entre eux seraient dangereux. Il recommandait, je cite, un plan Marshall pour les ponts, à savoir 1,3 milliard d'euros au total. Hervé Maurey, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que les choses ont avancé?
Sur ce point, les choses n'ont pas du tout avancé, puisque le gouvernement n'a pas tenu compte de nos préconisations et qu'il n'y a aucun crédit pour l'instant qui ont été annoncés ou dégagés par l'État pour pouvoir assurer cette aide aux collectivités locales qui ont la charge de la plupart des ponts en France. Et ce qui est extrêmement regrettable, c'est qu'en France, on attend toujours qu'il y ait une catastrophe pour réagir. C'est quand il y a eu la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc que l'on a créé un fonds dédié, doté de 130 millions d'euros par an pour remettre à niveau les tunnels. Et nous, on a demandé à ce que, justement, ce fonds qui vient à expiration, puisque ce travail de remise à niveau des tunnels a été effectué, il soit affecté au pont pour que l'on fasse ce travail de diagnostic et de remise à niveau avant qu'une catastrophe ne survienne. Alors malheureusement, il y a eu aujourd'hui une catastrophe. Ce que l'on espère, c'est qu'elle permettra de créer l'électrochoc nécessaire pour que l'État mette sur la table les moyens nécessaires pour la remise à niveau de nos ponts, parce que les collectivités locales ne peuvent pas seules accomplir cette mission qui est extrêmement lourde en termes financiers, mais aussi en termes d'ingénierie et de compétences techniques. On se réjouit que l'État progressivement augmente les crédits qu'il consacre à l'entretien de ces ponts, même si c'est encore un niveau qui est insuffisant en fonction des évaluations faites par l'État lui-même, puisque l'État considère qu'il devrait mettre 120 millions par an sur ses propres ponts, et cette année il mettra 79 millions, donc on est encore loin du compte. Mais même lorsqu'on sera à ce niveau de 120 millions, ça permettra une remise en état progressive des ponts qui relèvent de l'État, mais qui constituent un nombre extrêmement réduit par rapport au nombre total de ponts qui, pour l'essentiel, relèvent des départements et des communes.
Et l'autre aspect soulevé par ce rapport, vous l'avez mentionné, c'était aussi la méconnaissance de certaines communes et intercommunalités sur l'état de leurs ponts. Comment c'est possible et est-ce que là aussi des mesures ont été prises ?
Aujourd'hui, c'est possible parce que c'est vrai que c'est pas forcément, on peut le regretter, mais c'est ainsi, dans la culture des intercommunalités ou des communes, d'avoir fait ce travail de recensement et encore moins de diagnostic. Et c'est difficile à faire, en tout cas le diagnostic, parce que c'est extrêmement coûteux. Quand on sait qu'un diagnostic simple pour un pont, c'est de l'ordre de 5000 euros, vous voyez que pour faire simplement le diagnostic des ponts d'une communauté de communes, eh bien, il faut déjà mettre sur la table 400 000 euros, sans aucune aide de l'État, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune aide de l'État pour ce type de travaux, que ce soit les travaux eux-mêmes ou les diagnostics en amont. Donc, vous voyez que ce sont des sommes absolument colossales. C'est pour ça qu'on a pris l'expression assez forte de plan Marshall, parce que ça nécessite des moyens matériels et humains importants, mais qui sont nécessaires, et on est conscient qu'il faut faire des économies, que l'État à des contraintes budgétaires, mais ces contraintes budgétaires, elles doivent s'effacer lorsqu'il y a des vies qui sont en jeu, et on espère de ce point de vue-là que ce qui s'est passé aujourd'hui sera un déclencheur et une prise de conscience pour l'État.
Et justement, concernant le pont de Mirepoix, beaucoup de témoins affirment que les poids lourds de plus de 19 tonnes circulaient souvent sur ce pont. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un volet de prévention, de sensibilisation à mettre en place ?
Oui, naturellement, d'autant plus que l'on a observé, on l'a indiqué dans notre rapport, qu'avec les GPS, dans certains cas, ils indiquent le chemin le plus rapide sans tenir compte de la spécificité de certains ponts et notamment de leur capacité en termes de poids des véhicules qui utilisent ces ponts. Et donc, on a pu observer de ce fait des ponts qui jusqu'à présent étaient relativement peu fréquentés, qui maintenant le sont bien davantage et qui, du surcroît, accueillent des poids lourds qui sont dimensionnés de manière bien supérieure à ce que le pont est censé pouvoir supporter. Néanmoins, quand on m'explique que le pont qui s'est effondré était en bon état, qu'il avait été inspecté, qu'il n'y avait aucun souci, que des travaux avaient été faits et que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'ai du mal à comprendre que si tel était le cas, le simple fait qu'un poids lourd, même d'un poids supérieur à ce qui était autorisé, soit passé et suffit à provoquer cet effondrement, parce que des ponts qui supportent des poids lourds d'un gabarit supérieur à celui prévu. Il y en a tous les jours, des poids lourds qui empruntent des ponts alors qu'ils ne devraient pas le faire. Et heureusement, il n'y a pas à chaque fois un effondrement du pont. Donc je pense, mais c'est bien sûr les enquêtes qui le diront, qu'il y a peut-être eu un problème, que ce soit au niveau des travaux ou au niveau du diagnostic. Je vous rappelle qu'en 2018, il y a un mur de soutènement du pont de Gennevilliers qui s'est effondré, alors qu'il y avait une inspection qui avait indiqué que tout allait très bien. Et il s'agissait d'un pont surveillé par l'État, donc normalement mieux surveillé que les ponts qui relèvent de la responsabilité des collectivités locales.
Merci Hervé Moret. Je rappelle que vous êtes président de la mission d'information sur la sécurité des ponts. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une organisation française de cinéastes propose de suspendre Roman Polanski. Il s'agit de l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs, qui compte plus de 200 membres, dont Roman Polanski. Le conseil d'administration a voté ce soir la mise en place d'une procédure pour suspendre tout membre mis en examen par la justice ou condamné. L'ARP proposera donc, lors de son assemblée générale au printemps, de suspendre Roman Polanski, qui fait face à plusieurs accusations de viol et d'agression sexuelle. Revenons à présent sur le procès Helvetia Immo, l'affaire de ces prêts immobiliers indexés sur le franc suisse dans les années 2008-2009. Et résultat, après 10 ans de remboursement, eh bien environ 4000 emprunteurs sont obligés de rembourser plus que leur emprunt initial. Certains pourraient même être endettés à vie. Sur le banc des prévenus au tribunal correctionnel de Paris, il y a BNP Personnel Finance, la principale filiale crédit de BNP Paribas, connue à l'époque en France sous la marque CTLM. Le tribunal a entendu aujourd'hui un témoignage crucial, celui d'une ancienne directrice régionale. Elle a expliqué les conditions de la mise sur le marché de ce produit financier, un produit toxique mais pour lequel tout aurait été fait pour cacher sa toxicité. Anne Lorchouin.
Une désinformation en chaîne, c'est ainsi que Nathalie Chevalier, ex-directrice régionale de BNPPF, a qualifié ce qui a mené à la commercialisation du prêt Helvetia Immo, un produit concocté juste avant la crise de 2008 et présenté dans un premier temps aux trois meilleurs vendeurs du réseau, trois directeurs régionaux dont Nathalie Chevalier. Elle avoue d'abord ne rien comprendre à ce produit qui mêle crédit et spéculation financière, puis après explication, avertit sa hiérarchie du risque. Avant de s'entendre répondre entre autres amabilités que si Helvetia Immo n'est pas mis sur le marché vite, la filiale risque de mettre la clé sous la porte. La cadre se voit alors contrainte de rédiger des argumentaires pour les intermédiaires, les courtiers notamment, qui vont eux-mêmes transmettre ces argumentaires aux clients. Et ils sont peu nombreux dans toute la chaîne à avoir compris le risque, ce taux d'intérêt variable mais vendu comme un taux d'intérêt fixe. Tout a été fait pour qu'ils ne comprennent pas, explique Nathalie Chevalier. Un témoignage documenté, édifiant, du pain béni pour la défense, Charles-Constantin Vallée, avocat de plus de 1000 parties civiles.
Ce qu'a confirmé ce témoignage, c'est que BNP a choisi de former les intermédiaires qui sont allés vendre ce produit avec un argumentaire qui désinformait les clients. Et c'est comme ça que l'ensemble des clients ont été trompés. Elle nous l'a dit très clairement, les sujets qui étaient mis en avant étaient des sujets accessoires et le sujet principal, c'est-à-dire le risque de change, était totalement masqué.
Quant à la médiatrice de la BNP, PF, la socialiste Marie-Pierre de la Gontrie, Nathalie Chevalier, a expliqué qu'elle avait rapidement vu qu'elle, je cite, n'avait rien à en espérer, étant donné ses liens politiques avec l'ancien directeur de la BNPPF, aujourd'hui gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
Anne Lorchouin. 250 victimes potentielles identifiées par la justice, annonce du parquet de La Rochelle. On parle là de victimes d'un ancien chirurgien, le docteur Skwarnek, qui est accusé de viol et d'agression sexuelle sur ses patients, pour la plupart mineurs. Un peu plus de 200 d'entre elles ont été auditionnées dans cette affaire de pédophilie parmi les plus importantes jamais traité en France. Le temps demain, instable sur le sud-est, plus calme ailleurs. Le département des Landes est placé en vigilance orange, crue et inondation. Le ciel sera gris et brumeux sur les trois quarts du pays demain matin, avec quelques gouttes, voire des flocons au nord de la Seine. Du soleil bien présent au bord de la Méditerranée, excepté sur la Corse. Et les températures seront fraîches. Au réveil, 3 degrés à Paris et La Rochelle, 2 à Lille, Strasbourg et Bordeaux, 6 à Brest et à Marseille, jusqu'à 12 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Annie Brault, avec Jean-Frédéric Salatechnique.